c'est une méthode dans laquelle on est toujours débutant au final et où il n'y a pas d'ennui.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Cassandre Munier. Il y a quelques mois, dans le Haut-Marais à Paris, Cassandre a ouvert Reformation, un studio entièrement dédié aux pilates sur appareil. Originaire des Alpes, skieuse et runneuse, elle a quand même couru le marathon de New York en novembre dernier, cette jeune femme douce n'est pas qu'un corps bien fait, elle a également une tête bien faite. Diplômée de Sciences Po Paris, elle s'installe à New York en 2013 pour ouvrir une filiale de l'agence de stratégie d'influence Icon, une agence spécialisée dans la mode, la beauté et le luxe. Pendant un peu plus de 3 ans, parallèlement à son job, elle pratique le pilates intensément et se découvre une vraie passion pour cette discipline, à la fois exigeante et bienfaisante. Elle décide alors de passer une certification pour enseigner. Fini la com. À même pas 30 ans, Cassandre change de vie. De retour à Paris, son objectif est clair. Elle veut ouvrir son propre studio sur le modèle des lieux qu'elle a fréquentés à New York. Bois blond, pierres apparentes, plantes vertes, lumière douce, on est loin de la salle de gym standard. Chez Reformation, la star, je vous le donne dans le mille, c'est le Reformer. Un appareil assez austère, il faut le dire, mais qui est vraiment top pour réaligner son corps et accessoirement se sculpter un body de dingue. Et ce n'est pas Cassandre qui me contredira. Alors, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
En 10 séances, vous sentirez la différence. En 20 séances, vous verrez la différence. En 30 séances, vous aurez un nouveau corps. Joseph Pilate.
Bonjour Cassandre.
Bonjour.
Alors Cassandre, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le Pilate ?
Oui, bien sûr. Le Pilate, c'est une méthode de renforcement musculaire par rapport à ce que pensent beaucoup de gens qui envisagent ça comme du stretching ou une gym douce ou une méthode sans trop de traumatisme. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Donc effectivement, on n'abîme pas les articulations, mais qu'avant tout, c'est vraiment le renforcement musculaire qui définit la méthode, et particulièrement les muscles profonds, les muscles posturaux. Donc c'est une méthode qui a été inventée par Joseph Pilate, d'où le nom, et qui convient à la fois aux personnes qui reprennent le sport, qui débutent, mais qui est aussi utilisée par les sportifs de haut niveau. Par exemple, beaucoup les danseurs qui sautent toute la journée sur des parquets, sur des sols durs et qui traumatisent leurs articulations. Et les sportifs également qui ont beaucoup de déséquilibres, comme les tennisman, par exemple, parce que ça permet de rééquilibrer, de recentrer. Et donc, effectivement, on a une image qui n'est pas toujours la bonne de ce que ça peut être, parce qu'on entend toujours pilates, gym douce, on met aussi ça souvent dans le même sac que le yoga, et c'est quelque chose de vraiment spécifique et particulier, différent de tout ça.
Et pourquoi vous avez-vous choisi de devenir professeur de pilates, justement ?
À la base, parce que j'adorais ça, et que je pratiquais de plus en plus, et que je trouve que c'est une méthode à la fois ultra efficace et intelligente, en fait. C'est vraiment la façon de travailler qui m'intéressait et que j'avais envie de... Bon, il y avait tout un choix de carrière et d'évoluer vers quelque chose de nouveau et que ça prenait une place de plus importante dans ma vie, que j'en faisais de plus en plus, que ça me plaisait vraiment beaucoup. Et que ça a été l'occasion pour moi d'évoluer vers autre chose en faisant quelque chose qui me plaisait.
Oui, parce qu'à la base, vous n'êtes pas du tout prof de sport.
Non, pas du tout. C'était vraiment une reconversion complète. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait ce qui m'a guidée vers ça beaucoup, c'est une phrase de Richard Branson qui disait que pour créer une société, un projet, on appelle ça comme on veut, ce qui était intéressant et important de faire, c'était de se poser 2 questions. La première, c'était de se poser la question de savoir ce qu'on aimait. Et la deuxième, c'était de se poser la question de savoir ce qu'on n'aimait pas dans ce qu'on aimait. en partant du principe que si on montait un projet autour de quelque chose qu'on aime, on allait pouvoir y consacrer beaucoup d'énergie, de temps, faire des sacrifices, parce que au départ c'est quelque chose qui nous plaisait, ce qui était mon cas, parce que au départ j'étais cliente et élève de Pilates et que j'adorais ça. Et que si on trouvait quelque chose qui nous déplaisait là-dedans, c'est qu'il y avait une opportunité et qu'on ne devait certainement pas être les seuls à identifier ce problème. Et que s'il y avait un problème à résoudre, il y avait de la place pour monter un projet autour de ça. Donc c'était un peu les deux questions qui m'ont guidée lorsque j'ai décidé de me diriger vers le Pilates.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie du jour où... la première fois, en fait, les premières fois où vous avez commencé à pratiquer, par exemple...
Donc, en tant que cliente
oh, ouais, en tant que cliente. Et ensuite, en tant que créatrice...
Les premières fois que j'en ai fait, c'était il y a un petit moment. Je pense que ça devait être en 2010-2011. C'était à Paris. Et c'était sur tapis. Et en fait, dès la première séance... C'est vrai que la citation avec laquelle on a commencé, on sentait vraiment la différence. C'est-à-dire que je sortais avec le sentiment d'être beaucoup plus grande, de me tenir beaucoup mieux, presque de flotter et d'être beaucoup plus tonique ou en tout cas beaucoup plus forte dans mes mouvements. Ça, c'était quelque chose que j'ai ressenti très vite. Et qui s'est développé au fur et à mesure et qui effectivement se renforçait à chaque séance. Et en fait, il y a un côté très ludique aussi dans le Pilates et dans les exercices qui fait que il y a des choses que j'arrivais pas du tout à faire au début et que je prenais plaisir à faire évoluer. Et il y a des mouvements quand j'ai réussi à les faire, j'étais vraiment contente parce qu'au final, à part quand on apprend à faire du vélo quand on est petit, en tant qu'adulte, après, il n'y a plus beaucoup d'opportunités de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant et de sentir qu'on progresse.
C'est vrai, ouais.
Et ça, c'était vraiment agréable comme sensation.
Ouais,
et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de continuer, de voir jusqu'où je pouvais aller, les choses que j'allais arriver à faire, que je n'arrivais pas du tout au début.
Et comme ça, quoi, par exemple ?
Des exercices d'équilibre, beaucoup, des choses plus techniques aussi sur vraiment des positions que je ne comprenais même pas au début. Et puis des choses, des petites choses en fait, ce n'est pas forcément toujours de l'acrobatie pure, c'était aussi un peu le principe quand même du Pilates, de faire les choses avec précision et avec contrôle. Et c'est vrai qu'il y avait des sensations... au millimètre près, je pense, qui se débloquait au fur et à mesure dans certains exercices. Et où d'un coup, je me disais, ah oui, ça y est, ça, j'ai compris. Le point d'équilibre, j'ai trouvé la sensation d'où ça devait partir, comment je devais le ressentir. Et c'est plein de petites choses comme ça qui viennent au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est une méthode dans laquelle on est toujours débutant au final et où il n'y a pas d'ennui. Parce que selon les profs, selon le niveau... on va toujours apprendre des nouvelles choses et se remettre toujours en difficulté quelque part pour continuer à progresser. Et ça, c'est vrai que c'était agréable de ne pas avoir de lassitude.
Oui, ouais, super important. Et comment est née l'idée de créer votre propre studio ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, à Paris, il en existe plein. Quel était le principe
C'était pour le coup de répondre à cette deuxième question de ce que j'aimais pas dans ce que j'aimais. Et en fait, j'ai commencé à pratiquer à Paris. Et après, je suis allée vivre à New York pendant quelques années, où là-bas, les studios de yoga, de pilates, il y en a vraiment énormément. Donc, j'ai amplifié ma pratique pendant que j'étais là-bas et j'en ai fait de plus en plus. Et ce que j'aimais beaucoup dans la pratique aux États-Unis, c'était... le côté plus tonique du Pilates et puis tout ce qu'il y avait autour, l'environnement. C'est-à-dire qu'il y avait des studios qui étaient très beaux, dans lesquels on avait vraiment envie d'aller avec de la bonne musique, dans des endroits, des quartiers faciles d'accès, pratiques, des très bons profs, des très beaux équipements. En tout cas, il y avait à la fois le fond, donc les cours étaient vraiment intéressants, divers, variés, toniques, et puis la forme. Et en fait, quand je suis revenue à Paris pour monter ce projet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la même offre et qu'au départ, la question, c'était où est-ce que moi, en tant que cliente, j'aurais envie de continuer à aller faire du Pilates à Paris. Et il n'y avait rien personnellement qui me correspondait vraiment, parce que soit d'un côté, c'était du pilates sur machine, que donc je pratiquais quand j'étais à New York, mais qui était offert quasiment exclusivement en cours individuel ou en tout petit groupe, donc très onéreux, et pas accessible à grand monde de façon régulière, ou bien alors c'était du pilates sur tapis, comme je le pratiquais avant de partir aux États-Unis, mais qui manquait un peu de fun, et puis aussi ce côté ludique justement et varié que permettent les équipements et les machines. Et donc en fait, il n'y avait pas d'option de travailler sur des machines à un tarif abordable. Et parce que justement j'aimais tellement cette méthode, je trouvais ça dommage que peu de monde puisse vraiment découvrir ce que c'était et changer d'opinion sur le Pilates. Et donc en fait, c'est vraiment parti de ça, du fait que j'aimais la méthode, mais que je n'appréciais pas tellement, si moi-même j'étais cliente, les opportunités et l'offre qui existait à Paris.
Bien sûr. Donc du coup, vous ouvrez votre studio, c'est quoi, c'était il y a quelques mois hein?
C'était, on a ouvert, oui, le 20 novembre 2017. C'est tout récent.
Voilà. Et en quoi, qu'est-ce que vous proposez comme cours? J'ai remarqué que dans votre offre, c'était vraiment très, très, comment dire, très précis, quoi. Il y a du débutant, intermédiaire, etc. C'était une volonté pour vous de vraiment... pas cloisonner, mais en tout cas proposer une offre comme ça très définie dès le départ.
Déjà, la spécificité de ce qu'on offre, c'est que dans le studio, on propose uniquement des cours sur machine. Donc, on n'a pas du tout de pilates sur tapis.
Pas tapis, d'accord.
Non. Donc, en collectif. Donc, on a deux salles de cours collectives. La première sur Reformer et la deuxième sur Tower. Donc en fait, c'est simplement deux types d'équipements différents. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas du tout une évolution un peu marketing du Pilates. C'est vraiment à la base, Joseph Pilates a créé la méthode sur les machines. Donc c'est vraiment l'origine du Pilates. Et ça permet effectivement d'apporter à la fois de la résistance et de l'aide selon les différents types d'exercices et d'avoir un côté très ludique et très amusant. Donc ça, c'est vraiment à la fois sur l'efficacité et le côté fun, le faire sur machine, c'est vraiment ce qu'on propose. Et effectivement, le fait de le faire sur machine nécessite de cloisonner quand même un tout petit peu la pratique.
Bien sûr.
Parce qu'il y a un côté de prise en main de l'équipement, de comprendre comment fonctionne le système des ressorts, etc., qui fait qu'on est quand même obligé de poser des bases avant de pouvoir progresser vers une pratique à la fois plus cardio, plus technique, avec davantage effectivement des inversions, un rythme plus soutenu, beaucoup de gainage, des planches, etc. Et au-delà de la prise en main des machines, c'est vrai que c'est une méthode où quand on pose les bases et qu'on comprend vraiment comment travailler, ensuite on progresse très vite. C'est-à-dire que bon, des fois, on a tendance à vouloir commencer directement par un niveau intermédiaire, avancé, etc. Au final, c'est contre-productif parce que le niveau qu'on nous on appelle newbie, donc qui est le niveau débutant, c'est pas un cours dans lequel on va faire l'étoile de mer pendant 45 minutes, 55 minutes. Il va rien se passer. C'est un cours dans lequel on va travailler intensément, profondément, mais où on va vraiment comprendre comment faire travailler son corps, comment bouger. Et c'est vrai que c'est une des spécificités du Pilates, c'est de comprendre d'où partent les mouvements, comment engager au maximum pour faire travailler ce qui a besoin de travailler, relâcher ce dont on n'a pas besoin, pour ensuite gagner en efficacité à la fois en progressant dans cette méthode-là, mais aussi dans le quotidien, dans les gestes de tous les jours et dans les autres sports qu'on pratique. Par exemple, pour les gens qui courent, c'est juste un exemple, mais le fait de comprendre que les jambes sont connectées au centre et qu'en engageant le centre, on va être plus performant, on va mieux courir, on va moins se blesser. Ça, c'est des choses qu'on apprend et qu'on intègre dans le niveau débutant et qu'ensuite, on amène avec soi dans la course, dans les niveaux plus avancés, etc. Mais c'est vrai que le fait de poser les bases, de trouver ces sensations justement dont je parlais tout à l'heure, de dire « Ah oui, j'ai compris comment engager le centre pour tirer mes jambes et protéger mon dos », ça, une fois qu'on l'a compris, on le garde tout le temps.
C'est acquis, quoi. C'est comme le vélo.
Ouais, exactement. On ne le perd pas une fois qu'on l'a.
C'est ça.
Mais il faut le trouver.
Il faut le trouver. Ouais, ouais, voilà. Donc, ça ne se fait pas non plus en un coup de baguette magique, quoi.
Non, et puis c'est vrai que si on commence par un cours avancé, ce n'est pas forcément là que les profs vont prendre le plus de temps pour expliquer ça, pour être dans la pédagogie, de vous devez ressentir ça, engager
ça. Pour eux, c'est acquis.
Exactement. Ouais.
Bien sûr. Alors, justement, est-ce que vous avez des conseils, par exemple, à nous donner dans la vie de tous les jours ? Donc, vous parliez effectivement des gens qui pratiquent le running et qui, effectivement, doivent engager le centre du corps. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, quand on marche, etc., quand on est assis toute la journée derrière un bureau, est-ce qu'il y a des choses à mettre en pratique
Dans la vie de tous les jours, je pense que tout le monde est un tout petit peu tordu, de manière générale. Ce qu'on voit beaucoup dans les cours, c'est effectivement les gens qui se plaignent du dos énormément. Les gens qui ont les épaules très crispées également, parce qu'ils ont passé la journée devant un ordinateur sur leur clavier avec les épaules remontées sous les oreilles. Donc, en fait, il y a beaucoup de conseils à donner. Au final, le seul qui a vraiment du sens et auquel on revient toujours en pilates, c'est de faire tout partir du centre, ce qu'on appelle aussi en anglais le powerhouse. Qui en fait cette sangle abdominale à la fois via les abdos et le dos, en fait tout ce qui entoure notre centre, et de revenir beaucoup à ça tout le temps. Donc typiquement, dans les cours, ce qu'on essaye de dire aux gens, c'est descendre les épaules, connecter les omoplates dans le bas du dos, encore une fois cette idée de revenir au centre, de ne pas s'en éloigner, de ne pas tirer les épaules vers le haut. Et en fait, beaucoup de choses ensuite découlent de ça, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à respirer en gardant les abdos engagés, c'est-à-dire que les débutants, au départ, souvent ont tendance à juste rentrer le ventre et à s'étouffer,
pousser
le nombril à l'intérieur et à plus respirer.
C'est souvent ce qu'on nous apprend, mais justement en cours de pilates.
Dans certains
cours, on est d'accord.
L'idée, c'est qu'en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le pilate, une fois qu'on l'a intégré, on le garde avec soi toute la journée. Et donc, en fait, on ne fait pas du pilate que pendant l'heure qu'on y dédie tous les jours, toutes les semaines, en fonction de la pratique. Mais c'est vraiment une fois qu'on a ça, de garder cet engagement, de garder cette tonicité et cette posture au quotidien. Et c'est vrai que, par exemple, moi, au début, quand je commençais les cours, j'y pensais au feu rouge, par exemple. Dès que je m'arrêtais, en fait, je me disais « Ah oui, tiens, comment est-ce que je me tiens ?» Et j'y réfléchissais, et petit à petit, en fait, c'est devenu un automatisme et une habitude. Et c'est là où je trouve réside la force de cette méthode, c'est qu'en fait, on la prend, on l'amène partout, n'importe où, et qu'elle elle se renforce toute seule au fur
d'accord.
et à mesure.
D'accord. Oui, donc ne serait-ce que penser à se redresser,
à descendre
les épaules.
Rentrer. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est que c'est in and up. Donc, c'est à la fois rentrer le nombril et l'aspirer vers le haut. Et en fait, rien qu'en pensant à ça, si on y pense et qu'on le visualise, on va se redresser tout de suite.
Bien sûr.
Et on est censé pouvoir garder ça et continuer sa vie de tous les jours et respirer sans s'asphyxier.
D'accord.
Donc, voilà. C'est des choses qu'on explique aussi plus en détail et où les machines jouent un rôle, effectivement, parce qu'elles vont guider et elles vont encadrer ça. Et une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a compris, on continue avec toute la journée.
Ouais. Donc, à la limite, vous prêchez plutôt pour le pilate sur machine, avant peut-être même le pilate sur tapis, quoi.
En fait, l'avantage, effectivement, du pilate sur machine, c'est que ça apporte un cadre pour les débutants. Ça permet de pas faire n'importe quoi avec ses mouvements, parce qu'en fait, typiquement, quand on a les pieds dans les deux sangles, on est limité. Et on voit tout de suite les déséquilibres. On voit tout de suite s'il y a un côté du corps qui l'emporte sur l'autre. Visuellement, c'est beaucoup plus facile à corriger, à la fois pour les profs, mais aussi les élèves qui vont tout de suite sentir s'ils partent à droite, s'ils sont plus du tout alignés. Donc, pour les débutants, ça apporte des corrections beaucoup plus poussées, beaucoup plus visuelles que sur tapis. Pour les élèves plus avancés, ça rajoute un challenge, en fait, parce qu'on peut jouer sur la résistance, rendre des exercices plus difficiles. Donc, c'est très adaptable et ça permet de guider, effectivement. Après, tout le monde peux pas forcément attaquer sur machine, voilà. Parce que l'offre est limitée.
C'est
donc
ça.
Tapis, il y a des cours qui sont très bien également.
Ouais, ouais, bien sûr.
Voilà, c'est complémentaire. Mais les machines, effectivement, qui sont la base de la méthode, aident et encadrent les débutants et challengent les élèves plus avancés.
Ouais, d'accord.
J'ai remarqué que les enseignants du studio étaient tous plus ou moins danseurs. Oui. C'était une volonté ou c'est un hasard?
C'est un peu les deux.
C'est un peu les deux.
C'est-à-dire que je trouvais ça... Bon, alors, le point de départ pour moi, c'était d'avoir des professeurs qui soient vraiment formés en pilates, qui aient une formation spécifique sur la méthode, parce qu'il y a beaucoup de profs aujourd'hui qui prétendent faire du pilates alors que ça n'en est pas du tout. C'est un peu le problème, c'est pas quelque chose qui est très encadré. Et donc, on va voir des cours de pilates sur des Swiss balls qui ne sont pas du tout du pilates. C'est très bien, hein, les Swiss balls ont leur intérêt et sont intéressantes.
Mais c'est pas du pilates.
C'est pas du pilates. Et il y a plein de cours qui sont, encore une fois, juste une pseudo-gym douce, stretching, qui donnent une fausse image de ce qu'est vraiment le pilates et qu'on trouve sous ce nom-là dans plein d'endroits. Donc, c'était vraiment important pour moi de monter une équipe avec des gens qui soient vraiment spécifiquement formés à la méthode. Et effectivement, il s'avère que la plupart des gens qui ont une formation en pilates, pas tous, mais beaucoup, sont à la base des danseurs qui ont pratiqué le pilates pendant qu'ils étaient danseurs et qui se sont reconvertis vers la méthode par la suite, qui continuent à danser, à faire ça à côté. Et effectivement, du coup, en montant l'équipe, ça a attiré ce genre de personnalité. L'idée, c'était aussi de varier les profils, d'avoir des gens qui aient une expertise dans d'autres sports, dans d'autres domaines, et d'avoir plusieurs types de profs pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc, des profs peut-être plus cardio, plus toniques, qui correspondent à certaines personnalités, certains tempéraments. Ouais. Des profs plus doux, plus pédagogues, plus effectivement dans l'explication et dans le travail très profond, dans l'explication de la méthode. Donc voilà, c'était vraiment cette volonté de s'entourer de gens qui correspondent à tous les types de clients, pour que chacun puisse, selon son humeur du jour aussi, trouver un cours et un prof qui lui conviennent.
Bien sûr. Et qui sont les pratiquants types qui viennent chez Reformation?
Ça, c'était intéressant aussi parce que justement, avec ce projet, l'ambition, c'était quand même de dépoussiérer un peu l'image du pilates en France, de montrer que ça pouvait être un sport où on voit vite des résultats, où on transforme son corps, où on va aussi transpirer et pas simplement s'étirer. C'est vrai que la vision qu'en avaient les gens quand moi j'ai monté ce projet et quand je demandais aux gens c'est quoi pour vous le pilates, il y avait deux choses. C'était soit d'un côté une gym douce pour femmes de 50 plus qui n'avaient pas trop envie de transpirer et de se faire du mal, ou bien au contraire une vision très VIP, un peu élitiste, un sport, le sport des stars un peu, mais qu'on n'envisageait pas pour soi. Et donc l'idée, c'était en proposant sur machine de ramener ce côté plus athlétique, plus sportif dans la méthode, et puis en le rendant collectif, d'attirer une cible plus jeune, plus variée, et de casser cette image élitiste. Et donc, en fait, c'est vrai que la cible aujourd'hui et les gens qu'on voit au studio sont majoritairement des femmes, c'est sûr,
ouais,
mais pas que. Il y a des hommes.
Il y a des hommes aussi.
Ouais. Même si on ne va pas se mentir, ce n'est pas la majorité des clients qui viennent au studio. Et ce sont des femmes jeunes, en fait.
Ouais,
c'est entre 25 et 35, 40 ans en moyenne.
Ouais.
Donc, c'était un peu le pari,
c'est le pari,
pour le moment, est réussi, de rajeunir la cible et les gens qui pratiquent. Et pour le moment, c'est vrai qu'on a vraiment ce profil-là. C'est des femmes qui, dans la plupart des cas, sont sportives.
Ouais, c'est ça.
Pratiquent une activité, que ce soit du cycling, de la course à pied, quelque chose, effectivement, de plus cardio, qui est complètement complémentaire, parce que c'est vrai que le pilates en soi, c'est pas forcément la pratique la plus cardio qui soit, on va pas se mentir. Et donc, effectivement, c'est des femmes qui viennent rechercher un renforcement qui va leur permettre d'aller aussi plus loin dans d'autres pratiques et qui ont envie de travailler mieux, de mieux bouger leur corps, de comprendre ce qui se passe pour ne pas se blesser, pour être plus performant et qui viennent effectivement rechercher ça en priorité.
D'accord. J'ai remarqué aussi quand je suis venue qu'il y avait quelques New-Yorkaises. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être à New York. Hein. C'était très étrange. Tout à coup, je me sentais comme téléportée.
Ouais. Bah, du coup, effectivement, ce matin, le cours que j'ai fait, je l'ai fait en anglais.
Ah,
parce
ouais.
qu'il y avait plus d'anglophones D'accord. que de francophones
bon, après,
dans le cours.
Après, c'est peut-être le quartier qui veut ça aussi.
Oui, et puis l'horaire, les New-Yorkais ont tendance à aller faire du sport très tôt.
Oui, ils vont plutôt... Oui, c'est vrai. Il y a une vraie différence avec les Français. Les Français, c'est plutôt le soir ou...
Le midi marche vachement bien aussi, parce que la culture de la pause-déj en France, ça n'existe pas à New York. Et donc, on a effectivement des cours bien remplis le midi. Mais le matin,
Le matin,
en général,
c'est plus des Américains, des Anglophones, en tout cas. D'accord.
Mais on a... Enfin, on n'a pas spécialement ciblé ces gens-là
j'imagine.
Dans la com ou quoi que ce soit. Ça s'est fait assez naturellement.
C'est le bouche-à-oreille, en fait.
Ouais, beaucoup. Je pense beaucoup. On a eu quelques Américaines au début qui ont parlé des cours. Tant mieux, parce que c'est ce que moi, je considère comme la meilleure publicité.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on peut faire tout le marketing, toute la com qu'on veut. Si au final, l'expérience au studio est décevante, c'est vraiment de l'argent dépensé.
Ouais, exactement.
Jeté par les fenêtres. Donc, ce qui est le plus important pour nous, c'est que chaque personne qui mette un pied dans le studio ressorte en ayant envie d'en parler à 5, 10, 20 personnes. Et soit autant convaincu que nous, on l'est par ce que la méthode apporte. Donc oui, au début, on a eu quelques expatriés, des Américaines qui vivent à Paris ou des touristes également qui étaient de passage et qui voulaient continuer à pratiquer pendant qu'elles étaient ici. Et ça a petit à petit ramené du monde,
D'accord, c'est cool. Et alors, votre souhait pour 2018, ça serait quoi? Ça serait, je sais pas, d'ouvrir une autre salle
Déjà que celle-ci tourne bien. Et vraiment, enfin, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les gens qui viennent aient envie de revenir et deviennent aussi accros que nous, on peut l'être. Parce que, encore une fois, je trouve que c'est quelque chose de tellement efficace, de tellement intelligent, que plus on aura de gens convaincus et de clients addicts, et plus on sera content. Ça, c'est vraiment la première chose, de transformer cette image, de convaincre les gens, de leur offrir une belle expérience au studio. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, à la fois l'accueil, la qualité des cours, l'expérience sur place, le fait d'avoir créé un lieu qu'on a voulu très beau.
Oui, le lieu est super beau. Hein. C'est vraiment.
C'est vrai que
qui avez vraiment insufflé votre patte au niveau de la déco et tout, parce que c'est vraiment très joli.
Ben, l'idée, c'était déjà ce quartier. Le Haut-Marais, c'était vraiment là où je voulais m'implanter. Donc, ça a pris un peu de temps pour trouver le vrai bon lieu. Parce que c'est des surfaces qui sont pas évidentes à trouver dans ces quartiers, ou alors c'est toujours biscornu, c'est sur 3 étages, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Et puis j'avais un quartier assez délimité dans mon esprit. Et quand j'ai trouvé ce lieu, effectivement, ça a été assez immédiat. En fait, je suis rentrée à la fois dans la cour, déjà, que je trouvais très belle, et puis ensuite dans le lieu avec ses verrières de plein pied en une seule surface. Oui, ça a été un peu un coup de cœur. Et après, ça a été des mois de travaux parce que ça ressemblait pas du tout.
J'imagine. C'était quoi la base?
C'était une maison d'édition qui faisait des livres d'art, qui était installée dans l'espace. Donc, c'était plus en mode bureau.
Ouais, bureau.
Mais bon, il y avait cette surface, ce volume, ces verrières. Voilà, il y avait pas mal de potentiel. Après, il a fallu effectivement, je voulais récupérer les murs bruts, récupérer la vraie pierre d'origine, travailler sur la lumière beaucoup, parce que on fait beaucoup d'exercices allongés aussi, donc il fallait pas que ce soit un éclairage direct.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc Oui, ça a été tout un travail de rendre un lieu chaleureux, accueillant. Mmh. Et ma sœur est architecte, donc d'accord. C'est avec elle que j'ai travaillé là-dessus.
Ouais, d'accord.
Et oui, on avait une idée assez précise de ce à quoi on voulait que ça ressemble. Donc c'était vraiment les mots clés, c'était lumineux, épuré et accueillant. C'était vraiment là-dessus qu'on voulait jouer. Et puis après, les services aussi. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un à l'accueil pour faire un check-in ultra rapide, de pouvoir s'inscrire en ligne, réserver son cours, que ça se fasse en 2 secondes quand on arrive, qu'on donne son nom et voilà. On a toujours quelque chose à grignoter.
D'accord.
On offre toujours quelque chose à boire.
Vous faites des partenariats.
Voilà.
D'accord.
On fait des partenariats et là, à partir de 2018, ça va être quelque chose qu'on va développer en fait pour les cours du matin et du midi.
Ouais.
De proposer l'option cours seul ou avec breakfast box ou lunch box.
Ah, sympa.
Ouais,
c'est
donc.
Bien.
L'idée, c'est de dire, on vient au cours sur sa pause-déj, par exemple, et souvent, du coup, on n'a pas le temps, on attrape un sandwich triangle en repartant au bureau. Et
un
bon,
peu dommage.
Ouais, c'est un peu dommage.
Faire tout ça des fois, ensuite, tout bousiller dans un sandwich triangle.
Exactement.
C'est un peu dommage.
Donc, l'idée, c'est pour les gens qui le souhaitent, ils peuvent réserver leur cours et prendre l'option lunchbox. On le fait avec un partenaire du quartier.
D'accord.
Qui nous les prépare le matin en fonction du nombre qu'on a de réservations. Et à la fin du cours, la personne attrape sa lunchbox à l'accueil et repart au bureau et mange quelque chose de frais, de préparé le jour même.
D'accord.
Et ça permet d'être plus efficace, de ne pas perdre de temps et de manger quelque chose de bon.
Ouais.
Donc voilà, ça fait...
Idée.
Partie des petites choses qu'on veut développer. Après, on
le service.
Exactement. On a des douches, on a toutes ces petites choses qui permettent de venir, en gros, avec son legging et c'est tout, parce qu'on n'a même pas besoin de basket. Tous les produits de beauté, les douches, les serviettes, tout ça sont sur place.
Sont sur place,
Donc, un peu le modèle liberté.
Oui, liberté, et puis bon, voilà, efficacité.
Ouais.
On ne perd pas de temps.
Exactement.
Ça ne devient pas une expédition.
Ouais. Plus c'est simple et plus je pense que ça permet aux gens de venir sans se poser trop de questions.
Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et alors, 2018, donc ça va, c'est sur les rails.
Oui.
Dans 5 ans, vous vous voyez où ?
Si tout se passe comme prévu, l'idée, ça serait d'en ouvrir d'autres.
D'accord.
À Paris et ailleurs
et
également.
Ailleurs, ouais, bien sûr.
Ouais, parce que voilà, si on arrive à développer ça correctement sur Paris, à ouvrir plusieurs salles, on aimerait beaucoup aller proposer ça dans d'autres villes en France également.
Ouais.
Parce que voilà, je pense qu'il y a il y a du potentiel.
Bien sûr.
Il y a de la demande et il n'y a pas toujours l'offre en face.
Voilà.
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Paris au cours des dernières années, sur tout ce qui est effectivement studio, salle de sport, avec plein de nouveaux arrivants. Et je pense qu'il y a encore vraiment le potentiel pour se développer à la fois à Paris et ailleurs.
Et
le
ailleurs,
gâteau peut encore beaucoup grossir, je pense.
Oui, bien sûr. Ouais,
donc oui, l'idée, ça serait dans 5 ans... De se développer à Paris et ailleurs. Et c'est vrai que quand j'ai monté ce projet, je n'étais pas dans une démarche « je revends dans 3 ans et c'est terminé ».
Oui, ce n'était pas une démarche pure business.
C'est parti d'une passion à la base. Donc, c'est vrai que si pour moi, dans 5-10 ans, ce projet tourne, se développe, grossit et permet de faire de plus en plus d'addicts, ça sera réussi et je serais ravie de continuer à le faire grossir. Donc, je ne suis pas forcément effectivement dans une approche où je veux simplement monter 3 studios et sortir et faire autre chose. Si ça marche et que ça dure le plus longtemps possible, je serais très contente.
Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Merci.
Merci beaucoup, Cassandre.
Merci à vous.
Et à très bientôt, j'espère.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. Et en attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.